Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
En République démocratique du Congo, des écoles primaires et secondaires sont ouvertes presque chaque année scolaire. Pour bon nombre d'observateurs, la plupart d'entre elles ne sont pas viables. Pas d'enseignants qualifiés, pas de matériel didactique, pas des bâtiments, des infrastructures viables. Alors l'encadrement scolaire des élèves laisse à désirer. Conséquence, y a la formation est bâclée, les résultats ne sont pas fameux. Au TENAFEP, au test national des fins d'études primaires ou à l'examen d'État. Alors, quelles sont les normes requises pour ouvrir une école? On en parle avec M. Fabien Bouetoutelamio, directeur provincial de l'EPSP Kin Ouest. M. Fabien, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, quelles sont les normes pour ouvrir une école?
Merci beaucoup. Je voudrais d'abord commencer par vous dire qu'il y a deux types d'écoles.
Oui.
Il y a les écoles publiques, n'est-ce pas, et les écoles privées agréées. Les écoles publiques sont celles créées par l'initiative de l'État, du gouvernement central et des entités décentralisées. Tandis que les écoles privées agréées, ce sont des écoles qui sont créées à l'initiative des privés, c'est-à-dire des personnes physiques ou morales congolaises ou étrangères, qui présentent des garanties d'ordre politique, juridique, financière, matérielle, morale et pédagogique, qui sont définies dans la loi cadre numéro 86-005 du 22 septembre 1986, qui est la législation scolaire de base actuellement d'application au niveau de l'enseignement national. Pour les écoles publiques, dans la plupart des cas, les problèmes ne se posent pas. Là où les problèmes se posent...
Parce que c'est l'État lui-même
qui... C'est l'État lui-même qui crée...
Qui crée une école, les écoles.
Là où les problèmes se posent, nous sommes en train de corriger, et je pense que les échos sont assez positifs, et ça marche. C'est au niveau de écoles privées, privées agréées ou privées non agréées.
Où se trouve la différence entre les deux?
Lorsque une personne morale, physique, prend l'initiative de créer une école, il doit obtenir un arrêté d'agréement du ministère avant qu'il ne puisse fonctionner, que l'école ne puisse fonctionner. Mais fort malheureusement, il y a des gens qui n'attendent pas cet arrêté d'agréement et font fonctionner des écoles comme ça.
Sans l'autorisation du ministère.
Il existe ce genre d'école. Alors,
c'est ça que vous appelez écoles privées non agréées.
Ce sont des écoles privées non agréées.
Oui.
Les cas des écoles privées agréées, la loi cadre est assez illustrative, n'est-ce pas? Avant qu'une personne physique ou morale ne puisse créer une école, il doit disposer des garanties d'ordre juridique, c'est-à-dire il doit avoir une personnalité juridique propre, il doit jouir des valeurs physiques propres.
C'est-à-dire?
Il doit être un majeur, il doit présenter une attestation de bonne vie et mœurs.
Le promoteur de l'école,
oui. Okay. Il doit présenter une attestation de bonne vie et mœurs, il doit présenter une attestation, donc on doit attester que réellement ce monsieur est déterminé à accompagner le gouvernement, il est déterminé à travailler à côté du gouvernement, il doit se conformer aux lois de la République et à la Constitution,
oui.
Il doit jouir des droits civils et politiques. En dépit de ces garanties, il y a des garanties d'ordre financier et matériel. Ces garanties d'ordre financier et matériel exigent à ce que la personne puisse disposer d'une infrastructure, n'est-ce pas, scolaire et des matériels didactiques propres, appropriés et viables. Il doit disposer...
Infrastructure, donc des salles de classe, il faut avoir des bureaux.
Des bureaux, l'école ne doit pas être locataire, par exemple. Il doit avoir en banque un dépôt à terme de 6 mois d'assignation bancaire de la somme nécessaire au fonctionnement de son école et pour payer les enseignants et les personnes administratives. Donc avant d'ouvrir une école, il est exigé à ce que la personne puisse avoir un compte bancaire qui dispose des montants nécessaires.
L'équivalent d'un mois de salaire des enseignants?
Non, de 6 mois.
De 6 mois.
De 6 mois de salaire des enseignants.
Ok.
Et là, c'est une évidence. Et il y a aussi à côté des garanties d'encadrement moral, pédagogique et administratif. Il ne faudra pas qu'on prenne n'importe qui pour venir gérer une école à qui on doit confier la charge de la formation des enfants. Et là, nous avons toujours exigé à ce que la personne doit avoir une expérience d'au moins 10 ans dans le domaine de l'enseignement. Ou sinon, s'il n'a pas cette expérience de 10 ans, il peut s'acoquiner, il peut chercher quelqu'un qui a déjà travaillé dans l'enseignement pendant plus de 10 ans, ou un retraité, d'ailleurs c'est ce qu'on est en train d'encourager aujourd'hui, un retraité de l'enseignement qui peut l'accompagner dans cette lourde charge.
Qui peut être le directeur de l'école ou le préfet?
Dans certains cas, des conseillers pédagogiques, des conseillers administratifs ou les directeurs généraux ou collaborateurs du promoteur. La possibilité d'offrir aux élèves et aux étudiants, ainsi qu'aux personnes, un milieu éducatif susceptible de promouvoir la formation de l'esprit familial et patriotique, de la conscience nationale, de la fierté de son identité culturelle et de la dignité de l'homme. Il faut aussi ajouter dans les dossiers du personnel administratif, les dossiers du personnel administratif et du personnel enseignant. Est-ce que le monsieur qui veut ouvrir une école a-t-il recruté des personnels administratifs qualifiés, des gens qui connaissent la gestion et l'administration scolaire? Et est-ce qu'il a recruté des enseignants qualifiés pour chaque discipline? Est-ce que les enseignants qu'il propose sont des pédagogues au primaire et sont-ils des pédagogues au secondaire? Et il y a aussi des normes qui existent, c'est la conformité par rapport aux normes. Là, il y a les infrastructures scolaires.
Il faut avoir des bancs,
il faut que des salles soient
bien
spacieuses, bien aérées.
Il faut la cour
de récréation, la ventilation, l'éclairage,
les toilettes
et les types de portes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, avec l'éducation inclusive, nous sommes en train de penser aussi aux personnes vivant avec handicap. Il faut que les portes permettent à ce que une personne avec handicap puisse accéder dans la classe avec sa chaise roulante. Il y a aussi, par exemple, le respect des minima et des maxima. C'est-à-dire, il y a les effectifs à ne pas dépasser par classe.
Combien par classe, par exemple, première année primaire, il faut combien d'enfants?
Donc, de 50 à 55, c'est bon. Dans des conditions telles que les nôtres, où nous sommes dans le processus d'amélioration de l'accès et de l'accessibilité.
50 à 55 élèves par classe.
50 à 40, 45, ça passe aussi.
Mais il y a des classes surpeuplées, vous trouvez 100 élèves.
Bon, actuellement, je ne pense pas. Avec tout ce qui est en train d'être fourni comme effort par le gouvernement, il y a beaucoup d'écoles primaires qui sont en train d'être construites. Ces problèmes sont en train d'être résolus. Et avec tout ce qu'il y a eu comme rencontre entre les ministres nationaux et ces provinciaux, il y a eu quand même des arrangements qui ont permis à ce que nous puissions régler ces problèmes de minima et de maxima dans nos salles de classe. Donc, vous comprendrez que tout est mis en place par l'État pour que le comportement que certains promoteurs, la situation que nous vivons dans certaines écoles ne puisse pas être celle que nous vivons. Tout est prévu pour que ce genre de choses n'arrivent pas.
Bien.
Les écoles délabrées, non.
Voilà, quelles sont les normes à respecter pour ouvrir une école? Le sujet vous intéresse, n'attendez pas les dernières minutes. L'invité est là, M. Fabien, est là pour répondre à vos préoccupations. Composez le 081-890-63-94. Faites-nous également parvenir aux SMS au 081-711-50-01.
Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de conditions physiques. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et débarquer à Mbandaka en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage style papillon et j'en passe.
Okapi Sports. Un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sports, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Quelles sont les normes à respecter pour ouvrir une école, pour faire fonctionner une école? Okapi Service reçoit aujourd'hui M. Fabien Boetou-Telamio, directeur provincial de l'EPSP Kin-Ouest. Nous avons un auditeur en ligne depuis Kikwit, dans le Bandundu. Ogi Bendelo, bonjour.
Bonjour Jody, je salue aussi notre invité M. Fabien, et je salue aussi tous les auditeurs de la radio Okapi qui nous suivent en ce moment.
Quelle est votre question, Ogi?
Oui, je dis merci de m'avoir accordé la parole. Ma première question, j'ai mes deux préoccupations. La première, je demande à notre invité qu'il puisse nous préciser le maximum du nombre d'écoles ou minimum qui répond aux conditions souhaitées. C'est que je demande à notre invité qu'il puisse nous préciser le nombre d'écoles qui répondent au maximum ou au minimum qui répondent aux conditions souhaitées. Et les deux, j'ai voulu lui demander qu'il puisse nous éclaircir un peu. Est-ce qu'au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, qui peut avoir le pouvoir de décider les arrêter? Est-ce que les hommes politiques ont aussi ce pouvoir-là de se promener avec les arrêter? Parce qu'on les voit souvent, surtout nous qui vivons des milliers d'intérêts. C'est là mes deux préoccupations, mais c'est jeudi.
Alors, la deuxième préoccupation, je n'ai pas bien compris. Des arrêtés qui concernent le domaine de l'enseignement, vous voulez dire?
Oui, les arrêtés qui sont conformes au domaine de l'enseignement, surtout primaire et secondaire. Parce qu'on les voit souvent, il y a d'autres qui ouvrent des écoles sans normes, comme vous venez de le dire, là, c'est pourquoi j'ai demandé à notre invité qui sont autorisés et décidés sur l'arrêté-là.
Oui, Ogi, alors quelle est la situation, par exemple, vous dites qu'il y a des écoles sans normes, pouvez-vous nous décrire un peu plus comment fonctionnent les écoles à Kikwit?
À Kikwit, précisément, ça va assez bien, je dis. Mais si vous vous rendez principalement, parce que moi, je suis originaire du territoire de Boumou. Si vous vous rendez dans des villages, des secteurs du territoire de Boumou, ce sont des situations très alarmantes. Vous allez trouver d'autres écoles, donc qui ne sont pas construites, ce ne sont pas des écoles, mais une maison de quelqu'un séparée des rideaux ou des pagnes, les élèves étudient dans des conditions très, très, très alarmantes. Et pourquoi vraiment, si j'ai détaillé, vous allez peut-être répéter de ces contrées-là.
Voilà, merci Yogi. Bendelo de Kikwit. Frédéric Chilanda nous appelle de Kananga, dans la province du Kassai occidental. Frédéric, bonjour.
Bonjour Yogi, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute.
Justement, la question qui est sous examen est pertinente. Je crois que l'invité a tout dit à ce qui concerne les critères. Moi, je pense que cette fois-ci, nous devons soit dire des choses telles qu'elles sont. Le plus grand problème, c'est juste au niveau de ceux-là qui détiennent les postes de tutelle, les ministères de tutelle, qui délivrent bien sûr les agréments pour ces écoles-là, qui ne répondent pas aux conditions et qui ne répondent pas aux normes reconnues pour faire fonctionner une école. Je prends juste un exemple. Il y a les conditions justement d'implantation d'une école dans un milieu où les enfants peuvent étudier sans problème. Mais si vous voyez aujourd'hui, on peut toutefois accorder l'agrément à une personne parce qu'elle a beaucoup d'argent pour faire fonctionner une école dans un lieu et sans toutefois d'abord tenir compte aux prestataires, mais le milieu où il va implanter l'école n'est pas ce qui est pour un milieu important, où il y a trop de bruit à chaque instant.
Oui.
Juste au bord de route, il y a bien sûr le passage des engins à tout moment qui ne favorisera jamais justement la meilleure évolution des élèves. Et j'aborde aussi la question relative aux prestataires. L'invité a bien dit qu'il faudra au moins qu'il y ait un pédagogue. La personne qui a fait la pédagogie aux humanités, qui a fait la pédagogie aux universités, soit aux institutions supérieures. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est déplorable. On prend par exemple le maths physicien. Parce qu'il a fini, il a un tel diplôme, il enseigne. Maths physicien qui va enseigner le français. Donc, je crois que les problèmes, ce sont les gens qui se retrouvent au poste de tutelle, les ministères qui délivrent bien sûr les agréments de ces écoles-là, ces gens-là.
Bien, oui.
De bien agir avec responsabilité, savoir qui accorder bien sûr l'agrément. Parce
Merci.
Que si aujourd'hui on le fait parce qu'on veut, parce que c'est là beaucoup d'argent,
oui.
On est en train de faire souffrir le pays.
Merci Frédéric. Bah. Merci Frédéric Tulanda de Kananga. Jean Moulumba nous appelle de Kisangani. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à l'invité. Bonjour aux auditeurs.
On vous écoute, Jean.
Oui. Alors, j'ai un constat amer ici. Je suis à Kisangani. Ce que l'invité est en train de dire là, ce n'est pas ce qui se passe au terrain.
Oui, qu'est-ce qui se passe à Kisangani?
Parce qu'il y a des écoles qui sont créées, alors on ne sait pas l'origine vraiment des écoles. Vous allez voir, il y a d'autres écoles qu'on est en train de créer dans des marchés. Donc, ce n'est pas vraiment dans la ville de Kisangani. Si vous descendez ici, vous allez regretter ce qui se passe ici.
Alors, merci. Donc, on essaie d'imaginer ce genre d'écoles dont vous faites allusion, des écoles qui ne répondent pas aux normes.
Ne répondent pas aux normes, vraiment.
Oui, voilà. Merci, Jean. Omar Kigalo est à Kinshasa. Bonjour.
Je vous dis bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Je dis deux fois, c'est avec émotion que nous intervenons parce que on a toujours fait le travail de vulgariser, mais sur autre chose. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la situation des écoles, comme on le dit, est à la montre, même ici à Kinshasa. Alors, il faudra, n'est-ce pas, attaquer d'abord l'État qui ne vulgarise pas cette loi qu'elle invite à citer. Beaucoup de promoteurs ne la connaissent pas, défaut de vulgarisation. De deux, l'inspecteur a comme travail de ne pas rester au bureau, de venir demander au promoteur. Il a comme travail de savoir si l'école s'y conformait aux normes pour ouvrir. Les inspecteurs, dans la plupart des cas, ne font pas leur travail. Nous parlons des choses que nous connaissons. Alors, je voudrais poser ma première question à l'invité. Quelle est la structure d'un comité d'une école? C'est-à-dire, qui doit se trouver dans les comités? Je donne l'exemple d'une entreprise publique. On a l'ADC et l'ADF. Dans une école, tant primaire que secondaire, qui doit constituer le comité? Par exemple, le 2E, le CCI. Quel est le rôle de chacun? Et pour finir, apparemment, de façon générale, les écoles sont des ASBL, c'est-à-dire elles sont sans but lucratif. Mais je suivais un inspecteur général qui disait la fois passée, on a aussi inculqué la notion des écoles sociétés commerciales. Est-ce que c'est une innovation ou ce n'est qu'une information qui n'est pas vraie? Voilà ma préoccupation, je vous remercie.
Bien, merci Omar Kigalo. Monsieur Fabien, alors vous avez suivi les préoccupations de tous ces auditeurs. Vous avez la parole. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Merci beaucoup. Je remercie les auditeurs qui réagissent.
Oui.
Et je comprends, j'ai compris une chose, que tous ceux qui ont intervenu connaissent bien les sous-secteurs de l'EPSP. Ça, j'ai aimé. Il y a des gens qui s'intéressent vraiment aux sous-secteurs.
La situation est alarmante.
Bon, pas alarmante. Non, ils s'intéressent. Parce qu'en fait, c'est la pépinière pour l'avenir du Congo. Il y a notre ami Ogui de Kikwit qui a parlé des maxima et des minima. Hein, et qui signe les arrêtés de création des écoles.
Les écoles.
Et ce sont les politiciens et c'est qui? Non, j'ai donné une précision par rapport à ça. Par rapport au maxima, je pense que le maxima dont il est question, ce sont les effectifs maxima et minima par classe. Et là, il y a une note circulaire de 1982 qui fixe ces maxima. Au niveau du primaire, 55 élèves par classe. Au niveau du secondaire, première, deuxième, troisième et quatrième, 55 élèves par classe. Au niveau du secondaire, cinquième et sixième, 50 élèves par classe. En dehors de ces maxima, il y a les minima. Les minima au niveau du primaire, c'est-à-dire une classe de primaire est viable lorsque elle a 26 élèves par classe. Au niveau du secondaire, une classe de première et deuxième année secondaire est viable lorsqu'elle a 20 élèves par classe. Troisième et quatrième, 18 élèves par classe. Cinquième et sixième, 15 élèves par classe. En principe, les instructions existent.
Mais ces instructions ne sont pas connues et ne sont pas
Elles sont régulièrement vulgarisées. Et il est même dit dans la note circulaire du ministre que toute classe présentant un effectif inférieur au minima fixé est à considérer comme non viable et ne peut en aucun cas être prise en charge par les trésors publics pour les cas des écoles publiques. Alors, monsieur
Il y a Frédéric de Kananga qui nous rappelle que parfois on délivre des agréments à des écoles non viables, alors il en appelle à la responsabilité de l'État.
Oui. Qui signe les arrêtés de création de l'école? Les arrêtés de création des écoles sont signés par les ministres de l'enseignement primaire, secondaire ou professionnel après qu'il ait reçu, n'est-ce pas, les avis d'une commission provinciale de promo scolaire qui siège dans chaque province. Et les travaux de commission de promotion scolaire se tiennent en traitant les rapports des travaux de commission locale. C'est un travail qui est fait à la base. des communes des territoires pour ceux qui sont en province, il y a une commission qui siège, qui évalue les besoins réels en école, qui évalue les paramètres de commodité et d'incommodité dans l'implantation des écoles. C'est cette commission qui fait rapport à la province. À la province, sous, n'est-ce pas, la responsabilité du gouverneur, une commission provinciale siège. Et c'est cette commission provinciale qui envoie les rapports au niveau national pour que les ministres prennent un arrêté au terme des travaux de la commission de promotion nationale, un arrêté pour agréer les écoles. Mais, n'empêche, il y a eu... l'ordre est en train de revenir, il y a des arrêtés qui datent, il y a des arrêtés qui datent depuis longtemps, n'est-ce pas, qui n'ont pas été, dont les écoles n'ont pas fonctionné, et des gens continuent à se promener avec ça. Mais néanmoins, pour nous actuellement, nous sommes convaincus qu'on n'agrée pas n'importe quelle école. Les arrêtés qui circulent, ce sont des vieux
alors
arrêtés.
Alors maintenant, toutes ces écoles,
qui doivent être peut-être
toutes ces écoles non viables qui fonctionnent là doivent être fermées.
Les écoles non viables qui fonctionnent subissent les contrôles des services du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Je pense qu'en répondant aux questions des autres qui suivent, laissez-moi le temps, monsieur le journaliste, de notre camarade.
Voilà. Avant de poursuivre, nous allons accueillir des auditeurs. Fidèle Kalanga.
Est-ce que je ne peux pas terminer avec ceux qui ont posé des questions parce que c'est fondamental. On risque de ne
oui.
pas.
Oui, il n'y a pas de problème. Le temps de juste, on va prendre leurs questions et puis vous allez poursuivre. Fidèle Kadanga, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, c'est Fidèle depuis la CIVC de Kananga.
Alors, soyez bref, Fidèle. C'est quoi la question?
Merci, je vais tout juste à la question. Je voulais poser la question à notre invité.
Oui.
Lorsque lui trouve, en tant que directeur de province de l'EFSC Université, il l'a dit là, une école qui n'a pas répondu aux normes d'ouverture, qu'est-ce que l'État fait à son tour? Est-ce qu'on supprime ces écoles-là ou pas que nous voyons ces écoles-là exister? Même à Karanissi, il y en a. La deuxième question, je voulais poser à notre invité, est-ce que quelqu'un qui n'a pas fait la pédagogie appliquée, est-ce qu'il peut diriger une école? Parce que moi, je connais bien quelqu'un qui a fait les droits à Lubumbashi, il est SMI, il est chef d'établissement d'une école privée. Il est promoteur parce que son grand frère a beaucoup d'argent, il est promoteur. Et la deuxième question, je voulais poser à notre invité. Lorsque nous avons deux personnes, un cousin des ministres de l'enseignement, qui ne répond pas aux normes d'ouverture d'une école, cherche comment ouvrir une école. Et quelqu'un qui n'a pas une parapluie, mais il répond aux normes pour ouvrir une école. Qui aura vraiment un agrément pour ouvrir directement l'école? Voilà les trois questions que je vais poser. Je vous remercie. Bonne journée à vous.
Merci, Fidèle. Dieu merci, Pongo de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute. Hein. Quelle est votre question?
Bon. Oui, j'ai deux questions que je voulais poser à l'invité.
Oui.
Ma première question, je voulais juste savoir comment, quelles sont les modalités que nous pouvons peut-être, les démarches qu'ils vont entreprendre. Parce que nous voyons, je constate qu'il y a le Lubumbashi, il y a ces écoles privées là. Cette année même, ils construisent très rapidement et ils commencent directement à effrayer. Et je voulais demander à notre invité, quelles sont les modalités, les démarches qu'on peut faire pour qu'une école, lorsque vous recevez l'arrêté du ministre, de les fonctionner. Et de deux, je voulais rentrer sur ce qu'il avait dit, être un promoteur, être un préfet, il faut quelqu'un qui a fait la pédagogie. Moi, je sais bien, là où moi je présentais, j'ai terminé mes études, c'est lui qui était le préfet, il était, c'est un médecin. Mais je voulais poser à l'invité, quels sont les suivis que le gouvernement, les démarches que le gouvernement est en train de fournir, parce qu'ils nous disent que le ministre, il y a ça, il a des démarches. Mais moi, je ne vois pas seulement parce que celles-là qui dirigent les institutions, les écoles ici à Lubumbashi sont de médecins, de maîtres, ça et là, alors qu'il y a des échecs. J'espère que c'est juste les écoles publiques qui respectent, mais les écoles
privées, là, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, il y a bon nombre, voilà, et plusieurs auditeurs l'ont relevé. Il y a des écoles qui fonctionnent sans respect des normes. Merci. Dieu merci, Pongo de Lubumbashi. Alors, monsieur Fabien, on revient à vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces auditeurs?
Merci bien. Il y a monsieur Bendolo, donc, qui a fait allusion aux normes de construction des écoles. Je pense que par rapport à l'emplacement des écoles. On construit des écoles là où il y a des bruits, là
il y a
où
des bars, il y a des églises.
Et ainsi de suite.
Oui.
Non, il y a ce que nous appelons dans le domaine de l'opérationnalisation de l'enseignement, les zones non en génie scolaire, les zones non constructibles. Il existe des endroits où on ne peut pas construire des écoles. Les emplacements prévus pour les établissements scolaires devront avoir une bonne évacuation naturelle et doivent être en dehors des zones de risque. Ça, c'est connu. Et ces normes sont, je peux citer par exemple, pour le cas des zones proches des trafics lourds, là où passent les poids lourds. Il faut que l'école soit à 300 mètres. Les zones proches des rivières et des ravins, moins de 200 mètres. Les zones sous haute tension des lignes électriques. Par exemple, j'ai vu, moi je suis allé fermer une école qu'on voulait construire sous les lignes électriques.
On a haute tension.
J'ai délocalisé l'école.
Oui.
J'ai pris la décision de délocaliser l'école.
C'est très dangereux.
C'est très dangereux. Et là, on n'accepte pas. Des zones soumises sous fortes inondations. Quand on sait que dans ces quartiers, il y a des inondations.
On ne va pas exposer les enfants.
On ne va pas exposer les enfants. Même si la population marche, l'État est responsable aujourd'hui. On délocalise l'école. Au bord de la mer, à moins de 800 mètres du littoral, on ne peut pas construire une école.
Oui.
Des zones proches des failles tectoniques, hein, moins de 100 mètres de failles, on ne peut pas construire une école. Zone exposée au vent, sur les pentes à proximité des sommets des collines et montagnes, sur une distance en projection horizontale à partir de la crête, moins de 3 fois la hauteur du nord. On ne peut pas construire une école. À proximité des bords des falaises,
on ne peut pas construire.
On ne peut pas construire
voilà.
Une école.
Alors, M. Fabien, on retient qu'il y a plusieurs endroits où on ne doit pas construire.
C'est
bien. Alors,
la qualification des enseignants,
oui.
C'est une question qui est revenue.
Oui.
Les enseignants, je sais qu'il y a des milieux où les enseignants sont rares. Mais nous avons les inspecteurs qui font leur travail et qui ont accès à toutes les écoles.
Omar nous dit, certains inspecteurs arrivent
oui,
et puis on leur donne
un peu d'argent,
des pots de vin,
oui,
et ils ferment les yeux.
Merci
et puis,
bien, il l'a dit.
Ah bon, oui.
Il l'a dit et mm-hmm. Nous vivons ça. Mais il y a des remèdes. Vous aviez appris aujourd'hui que le monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel venait de restaurer ce qu'on appelle l'administration des non-originaires. On a affecté dans toutes les provinces éducationnelles les inspecteurs qui ne sont pas originaires, les inspecteurs principaux provinciaux qui autrefois se comportaient en chef coutumier. Ceux-là qui parfois soutenaient ce genre de démarches auprès d'un frère. Moi je suis du Bas-Congo par exemple, on m'envoie comme inspecteur principal provincial de l'enseignement dans le Bas-Congo. Le comportement que je présenterai par rapport à mes sœurs, par rapport à mes frères Maniam,
il n'y aura rien laissé aller.
Il n'y aura rien laissé aller. Et le ministre a réglé ce problème. Aujourd'hui, dès la rentrée scolaire.
Il y a même Fidèle de Kananga qui est revenu sur ça.
Oui, il est revenu
des
sur ça.
Des cousins qui viennent pour
non,
ouvrir l'école.
Qu'ils soient à l'aise.
Alors qu'ils ne sont pas qualifiés.
Qu'ils soient à l'aise dès cette rentrée scolaire. Les provinces éducationnelles ne seront plus animées par les originaires. Il verra peut-être quelqu'un du Bas-Congo, là au Kasaï occidental, et cette fois-là, ce dernier n'aura pas de dette morale, n'aura pas de compte à régler, n'aura pas de situation à résoudre.
Mais
avec la
qualification
famille.
Des enseignants, ça c'est un problème. Il y a des enseignants qui n'ont pas fait la pédagogie et qui enseignent les enfants.
Ouais.
Il y a Dieu merci de Lumbashi qui nous a parlé d'un préfet qui est médecin. Alors comment il s'y retrouve là-bas?
Bon, là, ça sera réglé avec les inspecteurs. Les inspecteurs, quand ils font leur contrôle, ils travaillent par rapport à la qualification des enseignants et par rapport même aux animateurs, aux encadreurs, donc les chefs d'établissement, les conseillers pédagogiques.
C'est lui qui n'a pas fait la pédagogie, peut-il diriger une école?
C'est lui qui n'a pas fait la pédagogie, ne peut pas en principe diriger une école. Il ne peut pas diriger une école parce qu'en fait, il ne maîtrise pas les paramètres pédagogiques de gestion d'une école.
Alors, Omar Kigalo a posé une question de savoir comment est constituée la structure, quelle est la structure du comité d'une école?
Et je pense que c'est la question que je voulais répondre.
Voilà.
Il existe un arrêté, c'est réglementé, l'arrêté portant organisation administrative d'un établissement d'enseignement primaire, secondaire et professionnel, même maternel.
Oui.
Au niveau de l'enseignement maternel, de l'éducation maternelle, il y a une directrice qui est là. Au niveau de l'enseignement primaire, il y a un directeur qui est le chef d'établissement. Il est secondé par un directeur adjoint Et après, il y a un surnuméraire. Et tous sont des pédagogues outillés. Ils ne sont pas choisis, désignés au hasard. Mmh. Ils sont choisis parmi les meilleurs enseignants de l'établissement scolaire ou de notre établissement scolaire. Au niveau de l'enseignement secondaire, il y a le chef d'établissement lui-même,
oui,
qui est secondé par... Bon, malheureusement, il y a des appellations qui posent encore problème.
Chef d'établissement, promoteur, c'est la même personne?
Non, différent.
C'est différent.
Le promoteur n'est pas le chef d'établissement.
C'est celui qui finance, qui amène l'argent,
le promoteur, lui, c'est lui qui crée l'école. Et l'école, c'est dote des structures conformément à la réglementation pour fonctionner.
Alors,
il faut qu'il y ait un chef d'établissement...
Oui.
Qui remplit les conditions avant d'être désigné, c'est-à-dire un pédagogue outillé.
Okay.
Il doit avoir un adjoint qui est le directeur des études ou conseiller pédagogique. Ce sont des collaborateurs qui s'occupent d'exécuter les différentes tâches pédagogiques au niveau de l'établissement scolaire. Les tâches liées à l'encadrement, les tâches liées au suivi des activités pédagogiques à l'école et les tâches liées, par exemple, à la formation.
Ben, c'est très bien. On va terminer par ici. Rapidement, la dernière question d'Omar est de savoir, il dit qu'il a entendu un inspecteur dire qu'il y a les écoles changent des statuts. Il y a maintenant des écoles qui ont les statuts de les sociétés commerciales. Cela est vrai ou
pas? Non. La réglementation congolaise ne le dit pas. L'enseignement est un service public qui est rendu par l'État. Les gens qui viennent épauler l'État l'acceptent aux seules conditions fixées par l'État.
Oui.
N'est-ce pas? C'est qu'ils doivent respecter les instructions et ils doivent fonctionner sous le contrôle de l'État. Les écoles et régies financières n'existent pas.
Alors, M. Fabien, on peut conclure en disant
que... Ce sont des établissements d'utilité publique.
Est-ce qu'on peut conclure en disant que toutes les écoles non viables seront bientôt fermées là, à travers le pays?
Non, la fermeture des écoles, c'est un processus. Dès lors que nous constatons que l'école ne remplit pas les conditions, on peut la fermer ou la délocaliser. Nous allons délocaliser des écoles. Moi, je l'ai fait avec une école qui était dans des ravins où l'accessibilité posait problème. On l'a délocalisée.
Okay.
Nous allons délocaliser des écoles. La fermeture, nous allons les faire progressivement.
Okay.
Par rapport à ce que vous aviez parlé de ces 200 écoles, les 200 écoles dont on faisait allusion, des écoles à pyramide renversée, de tout consort, ces écoles ne seront pas fermées. Nous avons mis en place un mécanisme tel que nous allons demander des palmarès, n'est-ce pas, des palmarès de cette
année. Surtout ces écoles qui ont échoué aux examens d'État, qui ont fait des néons. Là.
Oui, nous allons demander des palmarès, parce que très souvent ce sont des écoles qui n'ont pas de classe à la base. Elles n'ont de classe qu'au niveau de la sixième année des humanités. Et nous allons demander des palmarès pour que ces écoles ne puissent pas inscrire en sixième. Ces écoles vont se limiter à faire fonctionner les classes de 6e avec les élèves qui ont été promus, qui ont fait leur 5e année dans ces écoles et qui passent en 6e. Ils n'auront pas le temps cette fois-ci de ramasser à gauche, à droite.
Pour se faire de l'argent.
Là, ça n'existera plus.
Ouais,
ça, je vous rassure.
D'accord.
Et je rassure nos amis, nos auditeurs et nos frères qui sont en train de nous suivre. Il y avait une question importante.
Bon, rapidement, je vous donne quelques secondes, monsieur Fabien. On n'a plus de temps. Rapidement, répondez rapidement à la question.
Oui.
Quelques secondes.
Oui, il y a un autre ami qui a voulu savoir... Et lorsque les chefs d'établissement médecins et que dans des écoles privées, les chefs d'établissement sous-qualifiés abondent, et que dans toutes ces écoles-là, il n'y a pas d'encadrement, il y a beaucoup de petits problèmes. Là, je suis en train de lui confirmer qu'ils sont dans l'illégalité et que dès cette rentrée scolaire, il apprendra que ce genre de chefs d'établissement n'existeront plus.
Bien,
il n'y aura que des pédagogues
à
la tête des écoles privées agréées.
On aura l'occasion d'y revenir prochainement, M. Fabien. Je rappelle que vous êtes Fabien Boué, tout est l'ami, directeur provincial de l'EPSUEC in-Ouest. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci.